Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Thomas Rozek. La semaine passée, chose assez surprenante pour être soulignée, le web a suivi avec une passion digne des soirs de diffusion de Game of Thrones les activités d'une institution qu'habituellement il regarde avec un subtil mélange d'indifférence polie et d'ennui à peine voilé. Cette institution, c'est le Parlement européen. Et cet intérêt subi, il est dû au fait que les parlementaires avaient à leur agenda un texte qui met en éveil les internautes depuis des mois, la directive européenne sur le droit d'auteur, dont le désormais fameux article 13, transformé au passage en article 17, histoire que tout ça soit encore plus clair. Ce texte, on nous l'annonce déjà comme un tournant profond pour cet acteur de plus en plus essentiel de notre culture collective qui est YouTube. Alors, histoire de mieux comprendre où tout ça peut nous emmener, on a décidé d'y consacrer tout simplement notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
Salut tout le monde, alors aujourd'hui, une vidéo qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait d'habitude. Ce ne sera pas une vidéo de jeux vidéo, ce ne sera pas une vidéo où on va se marrer, ce sera une vidéo où on va parler de choses sérieuses.
Article 13, as you guys know, from September 12th, got approved. That's right. Everyone press F for European Union.
Vous l'avez compris, il va être essentiellement question aujourd'hui de YouTube. Et qui dit YouTube, dit Vincent Manilev, notre spécialiste maison, notre guide dans les méandres des univers numériques qu'il connaît comme sa poche. Vincent, à qui j'ai donc demandé ce qu'il y a dans cette fameuse directive européenne.
Alors, l'article 13, en gros, rend responsables les plateformes d'hébergement de contenu. Pour prendre des exemples très simples, c'est YouTube, Facebook, Reddit et tout un tas de plateformes de ce type, plus ou moins importantes, hein, évidemment, mais on parle des plus gros parce que c'est là où il y a les plus gros enjeux, entre guillemets, et ça les rend responsables des droits d'auteur des contenus qui sont hébergés sur leur site. C'est-à-dire que bah, maintenant, contrairement à avant, où il fallait qu'on leur signale une enfreinte
au droit d'auteur,
que bah, maintenant, c'est eux, avant même la mise en ligne réelle et l'existence sur Internet de certains contenus, ils vont devoir détecter s'il y a des infractions au droit d'auteur et, le cas échéant, soit... S'ils ont négocié des accords avec les ayants droit, et ben dans ce cas-là, autoriser logiquement la publication de ce contenu. Sinon, ils vont devoir soit faire supprimer, interdire la publication de ce contenu-là. Donc ça pose tout un tas de questions sur la liberté d'expression, le droit de citation, etc. Et c'est vraiment le nœud du problème, c'est sur la distinction que YouTube et ses algorithmes de recherche et d'analyse des contenus en ligne vont réussir à faire ou non pour respecter la loi, respecter les droits d'auteur. Donc c'est une problématique très très compliquée pour te dire.
Est-ce que dans cette proposition, dans cet article, il est précisé la méthodologie que vont devoir appliquer les plateformes pour justement faire le tri entre les contenus, ou est-ce que ça reste un chantier complètement ouvert?
Logiquement, même si je me souviens bien du texte, c'est pas dit explicitement comme ça, mais il va y avoir des outils de filtrage qui vont devoir être mis en place.
Donc il y aura une partie automatisée.
Voilà, c'est ça. Enfin, pour prendre l'exemple de YouTube, mais c'est celui dont on parle le plus, il y a plus de 400 heures de vidéos publiées chaque minute. Donc imaginez le nombre de personnes, d'humains qu'il faudrait pour analyser toutes les images, avoir le contexte pour savoir est-ce que ça relève cette citation d'une musique, d'un film, est-ce que ça relève du droit de citation, de la parodie, est-ce que c'est un mème, enfin voilà, est-ce que c'est quelque chose qui a le droit, qui est permis sur la plateforme aux yeux de la loi, ou est-ce que c'est un détournement des droits d'auteur, et à ce moment-là, comment on réagit. Donc oui, effectivement, il faudra que YouTube puisse mettre en place des outils de filtrage automatique en amont, avant même la publication d'une vidéo. Dans les faits, YouTube a déjà un outil qui s'appelle Content ID, mais qui repose beaucoup plus sur le signalement des ayants droit, c'est-à-dire quelqu'un qui a les droits sur une musique va dire « Écoutez, dans cette vidéo-là, il y a potentiellement une musique qui m'appartient, je vous le signale, comment on fait, est-ce qu'on bloque la vidéo, est-ce que l'argent généré par cette vidéo me revient ? » Donc ça existe déjà plus ou moins, il y a tout un tas de problèmes qui se posent autour de cet outil qui existe déjà. Mais concrètement, oui, dans les faits, ça va être un outil de filtrage automatique qui va devoir être mis en place. Et YouTube dit déjà que c'est très, très compliqué.
Et moi, il y a quelque chose qui me frappe, mais je suis totalement néophyte sur le sujet, c'est que cette directive, on va dire cette législation européenne, elle va devoir s'adapter aussi aux droits nationaux, qui ne sont pas forcément les mêmes. On n'a pas tous les pays n'ont pas forcément la même gestion des droits d'auteur. Est-ce que ça ne va pas créer un web à plusieurs vitesses quelque part, qui fait que dans un pays on va pouvoir avoir accès à tel type de contenu, en tout cas mettre en ligne tel type de contenu qu'on ne pourra pas forcément voir ou fabriquer de la même manière dans un autre pays.
Oui, c'est ce que disent déjà certains, notamment les défenseurs de l'internet libre entre guillemets, qui disent que maintenant il va y avoir un Internet américain dominé par les grosses entreprises, les grosses multinationales.
Elles, potentiellement, auront signé des accords de diffusion, voilà. Ou auront accès à des catalogues musicaux, ce genre
oui,
de choses.
Oui, voilà, mais d'ailleurs, il y a déjà des streamers en Europe qui disent « je vais aller aux États-Unis, je vais aller vivre aux États-Unis », comme si ça allait les protéger. Parce que là, on parle de la diffusion dans un pays en particulier. Oui. Donc là, effectivement, j'en voyais un qui disait... un gros YouTuber américain qui fait un peu du drama sur YouTube, qui disait « Bonjour à mes amis en Europe, c'est peut-être le dernier jour, ils pourront voir mes vidéos, etc. » Alors que dans les faits, c'est pas du tout vrai, ça va prendre beaucoup plus de temps que ça. Et surtout que, oui, effectivement, on peut se dire des fois, est-ce que ça veut dire qu'il y aura certains contenus, parce qu'il y aura eu des accords qui auront été passés aux États-Unis, qui n'auront pas été passés en France, est-ce qu'il y aura des contenus qui pourront ne pas être disponibles? Ça, après, il faudra voir comment YouTube gère ça, comment la France adapte ça. Mais c'est vrai qu'en France, il y a déjà des accords qui ont été passés entre les sociétés de droits d'auteur et YouTube, qui permet de reverser déjà des droits d'auteur à pas mal de créateurs sur Internet. Mais voilà, là, en tout cas, dans la loi, ça va évoluer et vraiment renforcer ça.
Comment s'est perçue cette nouvelle direction que prend le droit au niveau européen en termes de droits d'auteur sur le net? Comment s'est perçue par les premiers concernés, c'est-à-dire notamment les youtubeurs, c'est-à-dire les gens qui vivent ou qui en tout cas fabriquent au quotidien des programmes potentiellement qui demain potentiellement pourront être freinés par ces nouveaux outils. Comment est-ce qu'ils le vivent, comment est-ce qu'ils le perçoivent?
Alors en fait, il y a eu deux temps dans la façon dont les youtubeurs ont réagi à ça. Il y a eu un premier temps qui était une qu'on pourrait décrire de panique apocalyptique presque.
Alerte, c'est la fin de YouTube, tout le monde aujourd'hui, tous les
C'est-à-dire qu'il y a des gros youtubeurs. Exactement, c'est la fin du monde. Images de champignons atomiques en miniature de vidéos, etc. En gros, oui, non, c'est parce que YouTube avait fait du lobbying, a transformé tout un tas de youtubeurs, en les appelant même des fois, en gros lobbyistes, ouais. En leur envoyant des éléments de langage, même des fois des images qu'ils pouvaient reprendre pour faire des vidéos, pour défendre la liberté d'expression, etc., et dire non à l'article 13. Donc il y a au tout début, il y a eu un vrai discours, c'est la fin, on ne pourra même plus mettre de canettes Coca ou de personnages de manga en arrière-plan de sa vidéo, de figurines, etc. Alors que là, ça relève d'un droit complètement différent. Oui. Mais il y a eu un vrai élan de panique, et les plus gros youtubeurs, Squeezie, Cyprien, on va vraiment partager les pétitions, etc. Il peut y avoir des arguments qu'on peut entendre, mais il y a eu une panique qui a peut-être été un peu surévaluée, et que derrière, d'autres youtubeurs ont pris le temps de parler avec YouTube, avec des parlementaires, avec des avocats, etc., et de faire des contenus en disant le texte, de toute façon, n'est pas définitif. C'était il y a quelques mois, quand il y a eu cette grosse polémique là. Ça peut encore évoluer. Ça ne voudra pas dire que vous ne pourrez pas mettre de canettes dans vos vidéos, etc. Donc, ils ont essayé de calmer un petit peu le jeu. Et aujourd'hui, il y en a qui sont un peu... C'est un peu partagé entre des gens qui réagissent pas forcément, qui attendent de voir et qui se disent, au pire, il y aura forcément une plateforme ou un endroit où je serai un peu plus libre, ou pire, je m'en fiche, on verra comment ça se passe. Et d'autres qui s'interrogent vraiment sur leur vidéo. Et c'est vrai que, surtout pour les petits créateurs qui n'ont pas forcément, via leur société de production, eu des discussions très développées avec YouTube, avec des ayants droit, etc., qui n'ont pas forcément les ressources ou l'accompagnement pour ça, peut-être que pour eux, ça sera effectivement compliqué si, avant même de publier une vidéo, on leur dit non, tu ne peux pas, ton analyse de 25 minutes de tel film, tu ne pourras pas la publier. Donc ça, c'est vrai que ça peut être inquiétant.
Il y a un truc qui, moi, me heurte un peu. Alors, peut-être que je parle sous ton contrôle et peut-être avec beaucoup de naïveté, tu me le diras. C'est que moi, de mon point de vue de simple internaute, j'ai l'impression que justement la culture web, que cette culture, de cette manière de créer du contenu qu'ont les internautes et qu'ont les youtubeurs et bien d'autres, elle est née justement de la grande liberté et de la grande plasticité, on va dire, qu'ils avaient avec des matériaux qui existaient déjà. Mmh. Cette manière de. Donc, la culture du mème, cette manière de récupérer les choses, de les remixer, de les retransformer, j'ai l'impression que ce gros cadre législatif qui nous arrive là va mettre potentiellement un coup d'arrêt aussi à cette façon de faire.
Alors c'est vrai que c'est une vraie question qu'on peut se poser et c'est pour ça que beaucoup de défenseurs de l'internet libre, etc. sont vraiment inquiets. Il y en a qui disaient c'est une journée sombre au moment du vote pour les libertés sur internet, etc. Et c'est vrai que ça peut se comprendre et que ça peut vraiment poser des questions pour les types de contenus qu'on a connus au tout début d'internet où c'était une espèce toujours des mashups, des jeux des fois bizarres mais fascinantes et qui font la culture web d'aujourd'hui.
Oui, ont construit vraiment cette culture.
Oui, tout à fait, tout à fait, et qui la distingue des autres médias. Après, là-dessus, les législateurs, ils se défendent en disant qu'ils ont vraiment placé des exceptions. Parce que c'est vrai que longtemps, on avait parlé de mème ban, donc d'interdiction du mème, c'est-à-dire que l'argument, c'était on ne pourra plus mettre de mème et on va se faire bloquer.
Oui.
Ça, c'est a priori, ça n'arrivera pas forcément parce que voilà, il y a dans la loi, dans le texte, ils mettent bien que pour tout ce qui est parodie, même ils parlent pas explicitement de GIF, mais a priori tout ce qui est GIF aussi, ça sera relativement protégé. A priori, là-dessus, ça devrait aller. Mais en revanche, on peut s'inquiéter, on peut se dire que des fois, est-ce que les algorithmes, les robots qui vont scanner les vidéos auront la capacité nécessaire pour distinguer ce qui est un mème, une parodie. Un droit à l'information, un droit de citation, ce
oui,
genre
pour
de
analyser
choses.
Le contexte.
Voilà, pour analyser le contexte même. Et là, c'est vrai qu'on risque d'avoir beaucoup, de frustration chez pas mal de vidéastes où ils vont peut-être s'auto-censurer en se disant, mais si je mets ça, je vais peut-être risquer de faire bloquer la vidéo, comment je fais et tout. Et ensuite, effectivement, qu'une fois que leur contenu, qui des fois prend des semaines, voire des mois à faire, qu'ils le mettent et tout d'un coup, il y a un robot qui va leur dire non, alors que si on prend le temps d'expliquer et tout. Logiquement, il y aura moyen, il y aura des instances pour discuter de ces problèmes-là. Mais c'est vrai que là-dessus, ça peut être inquiétant. Sur le manque de contexte et la capacité des outils d'analyse à vraiment comprendre ce contexte-là d'un point de vue juste informatique et algorithmique.
Le web est donc tiraillé entre inquiétude et attente, car d'une part, le texte doit encore recevoir l'aval du Conseil de l'UE, mais aussi et surtout parce que d'autre part, il doit être désormais adapté à notre loi nationale. C'est important car, comme ma camarade Clara Benjamin du podcast Besoin de rien, envie de droit me l'a rappelé avec toute la vigueur de son statut d'avocate durant la préparation de cet épisode, il s'agit d'une directive et pas d'un règlement. Ça veut donc dire que les États de l'Union vont devoir le faire rentrer du mieux qu'ils peuvent dans leur loi. Par exemple, la directive européenne sur les droits d'auteur, déjà de 2001, avait donné en son temps naissance par ricochet à Adopi 8 ans plus tard. Alors pour saisir un peu mieux les enjeux du moment, je suis allé en discuter avec quelqu'un qui est concerné à plus d'un titre par ces sujets, Héloïse Wagner. Elle est avocate et youtubeuse. Sa chaîne 911 Avocats fait œuvre de pédagogie sur, entre autres, les questions de propriété intellectuelle. Et je lui ai demandé si on n'était pas tout bonnement à l'aube d'une remise à plat du droit d'auteur en France.
En gros, la vérité sur l'article 13, c'est ça. C'est qu'on n'en sait rien. Ça n'a pas vocation à remettre à plat. En fait, moi, ce que je trouve compliqué, en définitive, dans ce texte, c'est la gestion des exceptions. Donc, les exceptions au droit d'auteur, donc tout ce qui est parodie, courte citation, etc. Au sens où, évidemment, le projet de directive nous dit explicitement que ça ne doit pas porter atteinte à ces exceptions et que, bien sûr, qu'on ne veut pas du tout éteindre la possibilité de faire des parodies, etc. Mais comment ils vont faire ? Dès lors que sur des plateformes aussi grosses que YouTube, on va très probablement avoir ces filtres qui seront maintenus, on aura ces problématiques qui sont d'une interdiction, finalement, de... Comment dire ? Préalable. Enfin, en fait, ce n'est pas une interdiction préalable, mais ce que je veux dire, c'est que normalement, vous faites vos parodies, etc. Et si, effectivement, ceux qui ont les droits, ceux qui possèdent ces droits-là, se disent que ça a été trop loin, que ça ne respecte pas les conditions, ils vont devant un tribunal. Et finalement, maintenant, du coup, c'est plutôt un filtrage a priori, quoi.
Oui.
Puisque vous allez devoir ensuite faire un recours pour expliquer que non, c'est bien une exception, donc j'ai le droit de le faire. Et ça, je trouve que d'un point de vue liberté d'expression, ça pose vraiment question quand même, très clairement.
Quand on voit ça d'assez loin, on a du mal à imaginer ce que c'est concrètement la réalité de gérer avec des ayants droit quand on est vidéaste. À quel type de problématiques ils sont déjà soumis avant même de parler de ce à quoi ils vont être confrontés une fois que les textes auront changé. Mais pour l'instant, à quel type de problématiques on est soumis?
Donc actuellement, quels sont les problèmes rencontrés avec le droit d'auteur? Oh là là. Oh là là, oui, oui. Parce qu'actuellement, finalement, il y a deux grosses problématiques, deux façons de procéder différentes sur la plateforme dont on pourrait parler, à savoir celle correspondant à Content ID. Donc finalement, quand on a soit en fait un blocage automatique du contenu parce que c'est la règle qui a été imposée par les ayants droit. Donc les ayants droit ont entré dans le système en disant cette œuvre-là, si elle pop quelque part, non, vous la laissez pas sortir. Sachant que Content ID nous permet aussi, leur permet également de simplement monétiser de force la vidéo à leur profit. Et c'est, on va dire, l'option la plus classique. Par rapport au blocage, en règle générale, c'est plutôt de la monétisation. Donc ça, c'est une chose. Et sinon, on a aussi les notifications manuelles, c'est-à-dire quand des personnes envoient manuellement une notification à YouTube, donc plutôt des particuliers ou des sociétés qui n'ont pas accès à Content ID, et qui, du coup, font supprimer la vidéo à tort ou à raison. Voilà. Mais c'est vrai que l'un dans l'autre, de toute façon, ces deux méthodes, elles correspondent à la même problématique, c'est-à-dire l'utilisation d'œuvres qui n'appartiennent pas aux vidéastes. Et malheureusement, quand même, de façon générale, c'est vrai que les conditions des exceptions sont rarement respectées. Pour la parodie, j'aurais tendance à dire que non, quand même, s'il ne faut pas exagérer. Mais typiquement, la courte citation, c'est rare qu'on en respecte les conditions. Oui. Et de toute façon, c'est dans la culture d'Internet, de reprendre les œuvres des uns, des autres, pour ajouter aussi votre propre apport créatif. C'est comme ça qu'on fonctionne depuis des années, c'est ce qui fait la richesse d'Internet. Et c'est comme ça, c'est pas rentré dans les usages, mais en tout cas, c'est dans les codes classiques actuels. Ce qui fait que beaucoup, beaucoup de personnes ne se posent pas particulièrement la question du droit d'auteur et se disent que tout le monde le fait. C'est donc normal, c'est comme ça que ça fonctionne. Dès que c'est sur Internet, ça appartient à tout le monde. Ce qui, juridiquement, est complètement faux.
Justement, pour rester sur cette idée des usages du web, est-ce que finalement, ça n'est pas totalement irréconciliable avec le droit, quelque part, ce langage du web?
Ah, très bonne question. J'adore cette question. On va dire, pour justement tous les partisans de cette directive, ce sont des choses, ce sont deux pratiques, le droit et les usages d'Internet qui sont tout à fait compatibles, qu'on peut rendre compatibles. Et c'est, je pense que dans la tête de ces personnes, justement, c'est un but qui a été atteint ou qui est quasi atteint par cette directive. Maintenant, concrètement, c'est pas certain. Enfin, comment dire? Le but absolu, pour moi, ça serait effectivement de trouver un équilibre parfait entre la liberté d'expression, qui est une liberté fondamentale, donc protégée, etc., et le droit d'auteur, qui correspond au droit de propriété. Enfin, c'est aussi quelque chose de protégé. Donc, trouver vraiment un équilibre parfait entre les deux. Et on sent bien quand même que cette directive essaye et fait le mieux, que les rédacteurs, les négociateurs ont fait de leur mieux pour essayer de parvenir à un équilibre, mais il est pas vraiment là. Maintenant, c'est quand on réfléchit vraiment à la question et qu'on se creuse pour trouver des méthodes permettant de respecter les intérêts de chacun, c'est vrai qu'il faut admettre que c'est pas simple. Ça soulève des enjeux tellement importants et qui cristallisent aussi tellement d'émotions. C'est pas simple.
Il y a un dernier point que je voulais aborder, c'est le fait que justement via ce lobbying de YouTube dont on parlait tout à l'heure, on a un peu mis de côté le fait que ça pouvait quand même bénéficier aux vidéastes cette nouvelle directive, dans le sens où ça va protéger et renforcer leur droit d'auteur à eux. C'est-à-dire que leur création et la vie de ces créations et ce qu'ils pourront en faire ou ce qu'ils pourront gagner autour de ces créations sera peut-être un peu mieux protégé aussi.
Oui, alors, merci pour cette question, déjà. C'est vrai qu'on a eu tendance, de nombreuses reprises à oublier le fait que les vidéastes ont un peu ce double statut, oui. C'est-à-dire à la fois d'utilisateur d'un côté et de l'autre côté d'auteur, en fait, voilà, de créateur dont les droits, enfin, dont les œuvres sont protégées. Donc effectivement, un vidéaste, par essence, c'est un peu le cul entre deux chaises, entre guillemets, par rapport à, à ce texte. Maintenant, pour eux, oui, il est probable qu'à long terme, il y ait une augmentation du coût des revenus grâce à cette directive, si elle passe, hein, bien entendu. Ça, c'est toujours sous réserve. Puisque toutes les plateformes de type Facebook, etc., auront une obligation de négocier des licences. Et donc, nécessairement, ça va faire entrer plus d'argent dans les sociétés qui gèrent les droits des auteurs. Donc, on appelle ça les sociétés de gestion collective. Et du coup, techniquement et factuellement, ça fera aussi plus d'argent, normalement, chez les ayants droit, donc notamment chez les vidéastes.
Les plateformes n'auraient-elles pas d'ailleurs un peu rapidement mis de côté cet élément? Parce que finalement, si les usagers sont gagnants, il y a tout de suite bien moins de raisons de se battre pour les intérêts de groupes qui n'ont de leur côté que très moyennement envie de redistribuer les gains. La question mérite en tout cas d'être posée. Merci à Vincent Manilev et Héloïse Wagner pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver et Quentin Bresson. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos épisodes. Et si vous nous suivez via Apple Podcast, on compte sur vous pour nous laisser 5 étoiles Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. À demain pour un nouvel épisode.
Binge. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.